Bonjour à toutes et à tous, 17h pile, nous sommes en direct pour une heure et demie de sport consacrée évidemment à l'actualité sportive de cette semaine, mais également vous pourrez le noter tout au long de l'émission de la semaine dernière, puisque je commence cette émission par une petite mise au point. Malheureusement la semaine dernière nous n'étions pas avec vous, pour la simple et bonne raison, vous l'avez sans doute constaté, que le forum de Soccer ne fonctionnait pas, nous n'étions pas en disponibilité pour faire cette émission. Nous nous en excusons. Première mise au point. Déjà, la seconde, c'est qu'évidemment, vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez donner vos impressions sur les thèmes que nous abordons. Vous pouvez donner vos analyses, vos commentaires de passionnés de sport sur les sports que nous allons évoquer. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. On va faire l'émission aujourd'hui. On va.
Et même vos messages d'admiration.
Aussi, on peut faire ça aussi, ça peut se faire. On va parler évidemment de tennis, on va parler un peu de rugby, on va faire toute l'actualité sportive. Avec moi aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, en avant-primeur, Roméo.
Bonjour. Voilà, en avant-primeur, merci. Salut à tous, c'est moi, en avant-primeur.
Non, en avant-primeur, effectivement. Et c'est une première pour lui aussi, Adrien. Bonjour Adrien.
Bonsoir à tous.
Aurélien sera, comme très souvent, de la partie. Salut Aurélien. Et il y aura donc aussi Rakesh qui sera avec nous pour nous parler, entre autres, de NASCAR et d'automobile. On fera une large partie de notre émission consacrée à ça. Coucou Rakesh. Donc, voilà.
Bonsoir à tous, bonsoir les enfants. J'espère que vous avez fait passer une très bonne semaine.
Donc voilà, on va commencer évidemment par parler de tennis avec l'événement, je dirais, national en France, bien entendu, la semaine dernière. C'est le tournoi de Paris-Bercy. Roméo, un tournoi qui, objectivement, parmi les Masters 1000, n'a pas la même saveur que les autres. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça.
Oui, déjà le fait qu'il soit placé dans le calendrier une semaine avant le Masters, le Grand Masters de Londres. Il y a je sais pas combien de Masters aux États-Unis, Indian Wells, Miami, il y a aussi Montréal qui est juste à côté, enfin au Canada, et donc qui sont très rapprochés, notamment Indian Wells et Miami qui ont juste quelques semaines d'écart, et on trouve le moyen de placer le seul Masters français une semaine avant les Masters de Londres. Je trouve ça vraiment dommage.
Beaucoup de joueurs se battent pour être dans le top 8. Mais à ce moment-là, c'est quand même un désavantage, puisque les meilleurs mondiaux n'ont aucune raison de se donner à fond, puisque il est très mal placé, tu l'as dit, vis-à-vis des Masters qui commencent donc une semaine et demie plus tard. Donc Federer, Nadal n'ont vraiment aucune raison de se bouger le cul pour faire ce tournoi-là. Et le problème est toujours le même, c'est que ce sont les joueurs entre la 7e et la 10e place qui sont les plus motivés et qui ont le plus envie de remporter le tournoi-là. Et c'est ça qui pose problème quand on analyse les finalistes ces dernières années. Il y a toujours des exceptions, on va dire Nadal, Djokovic, c'est toujours des contre-exemples, mais c'est quand même, par le final, c'est le plus faible Master 1000 de l'année. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen que les organisateurs changent quelque chose, ou est-ce que finalement, comme tu dis, le tournoi n'y est pour rien, c'est uniquement le calendrier qui fait que c'est un tournoi qui est sous-évalué?
Je pense que c'est le calendrier, hein, parce que le tournoi, c'est un beau tournoi. C'est une belle salle, un excellent court qui a été refait il y a quelques années. Mais avant, l'année dernière déjà, il était placé pendant les vacances de la Toussaint en France. Et là, cette année, il a été placé une semaine après, si je me trompe pas. Et donc de ce fait, il n'est plus... Comment ?
Je confirme.
Et donc là, il n'est plus qu'à une semaine des Masters. Et on voit des joueurs s'économiser, ne pas jouer à fond, un peu en quelque sorte boycotter ce tournoi. Et c'est vraiment dommage, parce que ça a fait, comme tu l'as dit, un des moins bons Masters, avec mon fils Djokovic en finale, ce qui est un peu indigne par rapport aux autres Masters. Mais comme je le disais, il y a énormément de Masters aux États-Unis très rapprochés, mais on met le Masters de Paris-Bercy à une semaine des Masters de Londres, c'est n'importe quoi.
Ouais. Adrien, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Je veux dire que déjà, depuis l'année dernière, les 10 premiers mondiaux sont présents à Bercy. Souvenez-vous, il y a 3 ans, quand Davydenko avait gagné, c'était le mieux classé parmi les participants de Bercy. Donc je veux dire que les organisateurs de Bercy doivent déjà être heureux d'avoir des Federer, des Nadal, des Djokovic présents à Paris-Bercy. en 3 ans, t'avais Arbati, Davidenko en finale. Donc à mon avis, ils sont heureux d'avoir d'avoir les meilleurs joueurs mondiaux, même s'ils se font taper au premier tour. Je pense qu'ils sont quand même contents d'avoir les meilleurs joueurs présents. Alors que quand il y avait des Berdych, Davidenko qui avaient gagné en 2005 et en 2006, donc à mon avis, ils ont une petite part de satisfaction.
Oui, non, mais c'est vrai, mais je dirais que le problème, je pense que le problème ne se situe pas là, parce que depuis 3 ans, les meilleurs joueurs mondiaux sont obligés de participer à tous les Masters 1000 s'ils sont obligatoires, et ils ont des amendes très salées s'ils n'y vont pas. Donc effectivement, à ce niveau-là, c'est au niveau du public, au niveau des recettes, c'est une très bonne chose d'avoir les meilleurs mondiaux. Mais après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment embêtant ou pas? Et je pense que ça l'est vraiment, parce que les meilleurs mondiaux, comme je le dis, les 4-5 premiers sont déjà qualifiés pour le Masters. Ils ont les Masters qui arrivent à Londres une semaine après, donc c'est vraiment vraiment handicapant. Mais concernant leur participation, je pense que s'ils voudraient choisir, ils n'iraient pas au Masters. Mais ils sont obligés d'y aller. Donc justement, on parlait des meilleurs mondiaux, on peut en parler, le numéro 1 mondial, Roger Federer, battu par Benedetto en 3-7 au deuxième tour. C'est du Roger Federer, hein, dans le texte, c'est-à-dire que Roger Federer est quand même le joueur qui sélectionne ses tournois, c'est-à-dire que tous les tournois qui ne sont pas parmi les 4 du Grand Chelem.
On va pas lui en reprocher quand même.
Non, il a bâti sa carrière et son palmarès sur les grands chelems, donc non, bien sûr que non, on peut pas le reprocher. Après, pour le public parisien et pour les publics des autres cours et des autres stades, c'est dommage, parce qu'il n'est au top, il ne joue à fond que les 4 grands chelems durant l'année. C'est un peu dommage. Cette défaite face à Benedetto en 3-7, bon, Benedetto a fait un gros match, hein, Roméo, je pense qu'on peut dire ça, mais malgré tout, un bon Federer aurait su passer outre l'obstacle Julien Benedetto. Benedetto, petite parenthèse, qui va être entraîné par Loïc Courtois bientôt. Petite réaction par rapport à ça.
Mathieu. Mais parce qu'il entraînait Mathieu, Loïc Courtois, donc.
Ouais, c'est aussi l'ancien entraîneur d'Amélie Mauresmo, Loïc Courtois. Donc voilà. Et donc défaite un peu surprenante, mais bon, pas trop finalement quand on connaît le caractère de Roger Federer.
Il a raison. Je suis désolé, mais quand t'as une échéance qui est une semaine, un des tournois les plus importants de l'année, tu vas pas jouer à fond, inconsciemment et même consciemment, tu vas pas jouer à fond le Masters qui est une semaine avant. C'est logique, c'est une réaction normale de s'économiser en vue d'un des plus grands tournois de l'année.
Enfin, quand tu vois le niveau de jeu de Djokovic, je veux dire qu'il n'est pas. Il s'est dépensé à fond, hein. Quand tu vois ses matchs face à mon fils, face à Söderling aussi, je peux dire qu'il a bien galéré. Il a donné tout ce qu'il avait. Il est là cette semaine à Londres. Il s'économise
après,
pas.
Après, chaque joueur fait comme il veut.
Oui.
Mais après, si Djokovic a le jus cette semaine pour le Masters et s'en sort très bien, pourquoi pas en le gagnant. Alors là, il aura super bien géré sa fatigue, mais si il se retrouve éliminé dès les poules, ou alors s'il fait une contre-performance en n'allant pas en finale, et ben là, il aura des questions à se poser. Est-ce qu'il aurait dû jouer à fond ce tournoi? Mais à voir.
Ouais. Surtout qu'il avait fait balle une semaine avant, battant Federer en finale en plus.
Oui. Ouais. À domicile, à balle.
Ouais.
Et quel match, c'est un très beau match d'ailleurs. Bah justement, sans transition, je vais dire, le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, qui a justement été écrasé par Djokovic, on vient d'en parler, en demi-finale, Djokovic qui remporte son premier Masters 1000, c'est assez surprenant, mais il échouait très, très souvent en finale. Bah dans une finale quand même, je pense que vous l'avez vu, elle était assez décevante en termes de qualité. Bah contre un Gaël Monfils que j'ai personnellement trouvé apathique et sans intention offensive, hein, c'est du Gaël Monfils comme on n'aime pas le voir, c'est-à-dire le Gaël Monfils qui est toujours constamment derrière sa ligne, qui n'essaye pas de couper les angles, qui n'essaye pas de prendre l'initiative, qui subit le jeu. Face à ça, il y avait un Djokovic qui a tenté d'user de jeu offensif, il a attaqué, mais il était incroyablement maladroit, c'est clair. Il était par moments, je l'ai trouvé impatient, Roméo. Tu m'avais dit aussi que tu le trouvais impatient. Est-ce que justement c'était pas la même volonté? Et on peut aussi parler de Rafael Nadal. Est-ce que ça ne s'est pas résumé finalement au fait que il voulait un peu s'économiser, mais finalement il gagne le.
Je pense, oui, c'est possible qu'à l'intérieur de lui-même, il ait voulu mettre fin le plus possible à ce match en raccourcissant les échanges le plus vite possible, etc. Mais oui. C'est fortement possible.
Ouais.
En tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné à moi aussi.
Non, mais et oui, et concernant Gaël Monfils, tu as pensé quoi de sa finale?
Bah, une finale, c'est déjà une belle performance pour Monfils d'être arrivé en finale.
Oh oui.
Mais sa finale, il a accroché un set, mais comme tu l'as dit, au niveau du niveau de jeu, petite répétition au niveau du niveau de jeu, c'était pas top top, comme tu l'as dit, à mon fils apathique qui s'est contenté de remettre les balles. Peut-être qu'il était épuisé de ses enchaînements avec la victoire contre Cilic en 3-7, la victoire contre Stepanek en 3-7 encore. Voilà, c'est possible aussi. Mais il a jeté toutes ses dernières forces dans ce tournoi, vu que c'était le dernier pour lui, vu qu'il n'est pas qualifié pour le Masters de Londres. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu saisir cette occasion en tombant sur un Djokovic qui a tenté de finir le plus vite possible les échanges. C'était peut-être l'occasion jamais pour mon fils de remporter un Masters.
Ouais, c'est sûr, mais les mauvaises langues d'ailleurs disaient, pas très sympathique, mais ils disaient que Gaël Monfils, vainqueur de Paris-Bercy, ça n'aurait pas rehaussé le palmarès de c'est pas très gentil, mais bon, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pensé, on peut pas le nier, ça. Donc, fortune diverse, on l'a dit, pour les joueurs français. En tout cas, dans ce tournoi, aucun n'ont gagné leur billet parmi les 8 derniers à Londres, enfin, directement, bien sûr, puisqu'on sait que Tsonga est remplaçant. Justement, sans transition, parlons du Masters de Londres. Et Roméo, un nom se
déchire. Il joue en ce moment.
Oui, il joue en ce moment et Murray a pris
un premier
set contre Del Potro.
Alors, Murray contre Del Potro, Murray à domicile qui joue à Londres. Et 6-3 dans la première manche pour Murray, 6-3 dans la deuxième pour Del Potro. Et c'est le début du troisième set, Murray a gagné son service et là c'est Del Potro qui sert pour revenir à un partout.
Et donc ça va être un match très serré et ça confirme ce qu'on pensait pour Tsonga, ça va être très difficile parce que Tsonga est remplaçant, il est le 9e meilleur joueur dans le tableau final puisque Roddick est blessé et il était normalement 10e, mais Roddick s'étant blessé, c'est Söderling qui est 9e qui est donc dans le il le mérite
un Söderling.
Söderling le mérite au niveau de sa saison d'être dans les Masters de Londres, hein. Ça, je pense que ça se discute pas.
Ah, c'est sûr. Son superbe Roland Garros, oui, ah oui.
Ah oui, non, mais ça se discute pas. Et en plus, il a fait des gros.
De toute façon, je vois pas comment on pourrait discuter puisque c'est pas un choix subjectif. C'est pas une élection élue par des supporters, par un jury. Non, c'est les points engrangés tout au long de la saison. Il y a aucune discussion possible sur ça.
Ouais. Quand un mec comme Verdasco, on se demande qu'il fout là, quoi. Il a fait son Open d'Australie, voilà, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Mais bon, au niveau des points, il a accumulé beaucoup de points en janvier, ce qui lui permet d'être septième aujourd'hui. Parmi les favoris, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a quand même l'impression, et je pense que vous allez certainement partager mon impression, que d'habitude on aurait pu mettre Federer et Nadal comme les deux grands favoris. Cette année-ci, je dirais qu'au vu de cette fin de saison, on a plutôt tendance à dire que Djokovic, voire même Murray, sont plus impressionnants.
Non, non.
Surtout Djokovic sont plus impressionnants que Federer et Nadal. Et ils sont vraiment, et il est en tout cas le grand favori, je pense.
Je pense, mais pour Murray, bien qu'étant supporter de l'Écossais, je reste sceptique parce qu'on l'a vu cette année, à chaque fois qu'il est annoncé favori, qu'il part avec ce costume, cette étiquette d'ultra favori dans un tournoi, il chute, il sait pas encore gérer la pression d'un leader, d'un joueur attendu pour la victoire finale. On l'a vu à Wimbledon. Et c'est quand on l'attend le moins qu'il est présent contre Miami, à Miami où il fait le meilleur tournoi son meilleur tournoi de l'année en battant Djokovic après un super match de sa part. Et on l'a vu, c'est lorsqu'il n'est pas attendu, quand c'est peut-être l'outsider qu'il réussit le mieux. Et là, devant son public à Londres, je le vois pas gérer cette pression qui pourrait lui permettre de gagner le tournoi, malheureusement.
Ouais, et faut pas oublier, faut aussi rappeler quelque chose, c'est que Andy Murray n'a pas encore gagné de Grand Chelem. On lui met toujours une pression constante parce qu'il a
à l'US Open aussi. Il a chuté contre, j'ai parlé de Wimbledon, mais à l'US Open aussi, il a déchanté contre Marin Cilic.
Il a raté son US Open, ça c'est clair. Justement, un qui a réussi son US Open, c'est Juan Martín Del Potro. Il est arrivé un peu douteux. Tsonga, j'en parlais, qui disait en off, bon, évidemment, il a pas dit devant la presse et devant les journalistes, il disait en off que sa grande chance, ce serait que Del Potro se blesse. On voit ici qu'il accroche Murray. Donc, est-ce que lui, il a des chances crédibles de gagner ses Masters Del Potro en vue de ce qu'il a montré, notamment à l'US Open, et en dépit, je vais dire, de sa blessure qu'il a encourue en fin de saison?
Bah, des chances crédibles, oui, dans ce Masters est assez ouvert, je pense que Del Potro a ses chances, légèrement moins que celle de Djokovic, mais il a bien sûr ses chances. Ça, quand on voit la forme actuelle de Federer ou même de Nadal, qui est la forme de Nadal, Del Potro a sa carte à jouer. Après, moi, je place Djokovic favori.
Voilà, mais ça c'est dit. Il y a évidemment les deux groupes. On sait comment fonctionnent les Masters depuis de nombreuses années. Le groupe A avec Federer, Murray, Del Potro, Verdasco. C'est un groupe quand même. Je considère moi que c'est le groupe le plus relevé parce que Federer, Murray, Del Potro.
Pardon.
Je considère moi que c'est le groupe
le plus relevé. Ah oui.
Federer, Murray, Del Potro quand même. C'est. Et il y a le groupe B avec Nadal, Djokovic et je dirais un peu derrière, un peu en retrait, il y a Söderling et Davidenko. Mais Nadal qui se retrouve, c'est une petite parenthèse, mais Nadal se retrouve avec ses meilleurs amis, hein, parce que Davidenko et Söderling, on sait qu'ils vont pas passer leurs vacances ensemble. Et Davidenko, je sais pas si tu as entendu ce qu'il a dit cette semaine sur Nadal, c'est pas piqué des hannetons quand même. Il a dit que Rafael Nadal, c'est normal qu'il n'était pas bien parce qu'il avait des problèmes physiques et que le jeu de Rafael Nadal se concentrait uniquement sur son physique, pardon, et que le but.
Oh, c'est de la provoque.
Ouais, c'est de la provoque, hein. Ouais, mais il va l'affronter, hein.
Mais bon. C'est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas.
Il y a un soupçon de vrai. Après, quand il dit Nadal.
Oui, il y a un soupçon. Non, parce que le jeu de Nadal ne repose pas essentiellement sur le physique, parce que sinon, si son raisonnement était juste, Nadal ne ferait même pas illusion. Alors que là, il s'en sort grâce à sa technique. Nadal a un jeu qui se repose beaucoup sur son physique. Mais il faut pas jouer les mauvaises langues. Il a une excellente technique également.
Ouais. En tout cas, Davidenko, il a carrément dit que Nadal n'avait aucun service et aucune volée. Bon, ben voilà. Je crois que l'espagnol appréciera. Il est quand même dans un groupe très piège, hein, parce que d'abord Djokovic, on a déjà parlé de lui, on va pas dire pourquoi. Davidenko, il a pris une tôle en demi-finale il y a quelques semaines, je sais plus quel tournoi. Il s'est fait manger par Davidenko. Bon, Söderling a un jeu. Okay. Söderling a un jeu sur dur qui peut très bien l'embêter et qui l'a d'ailleurs très souvent embêté. Bon, en plus, on va pas rappeler hein, l'épisode Roland Garros où je pense que il a un petit peu encore au travers. Donc Nadal est quand même dans un groupe, alors qu'il est le meilleur, il est censé être le meilleur des quatre au niveau du classement. Il est quand même dans un groupe. Je sais pas si tu penses pareil, très piège. Et moi, je suis pas certain que Nadal va passer les poules hein. Avec Djokovic, Davidenko, Söderling. Est-ce que tu penses que comme moi que ça va être compliqué pour lui?
Moi, je le vois quand même passer des poules Nadal dans ce tournoi. Après, rien n'est sûr parce que on n'a pas en parlé, mais il peut y avoir un débat sur la forme de Nadal. Est-ce que Nadal s'est économisé à Bercy ou alors est-ce qu'il est vraiment en méforme physique? Moi, je pense qu'il est en méforme physique. À savoir, est-ce qu'il sera au top? Il sera au top, sûrement pas. Est-ce qu'il sera dans un pourcentage de forme assez suffisant pour passer les poules? Je sais pas non plus, mais je le vois quand même au-dessus de Söderling et Davidenko.
Non, mais je rejoignais, je voulais rejoindre ce que disait Romulo, ça va être quand même dur pour Nadal parce que Djokovic, on a vu la branlée qu'il lui a mis à Bercy. Comme t'avais dit, Chris, Davidenko, il l'avait battu en 2-7 à Shanghai. Nadal, il avait été inexistant. Et Söderling, comme tu avais dit aussi, sur dur, il peut très bien enchaîner en 2-7. Enfin, franchement, ça va pas être facile pour de se qualifier pour les demi-finales. Moi, je suis pas super confiant, quoi.
Ouais, on a parlé un peu des chances des uns et des autres. On n'a pas encore parlé de Roger Federer. Il pourrait être dépassé par Rafael Nadal. Nadal pourrait finir numéro 1 mondial. Ça semble très compliqué. Il faudrait, en ce sens que Rafael Nadal remporte les Masters, c'est que Federer ne dépasse pas le stade des poules. Ça semble assez compliqué, mais c'est possible. C'est du domaine du mathématiquement possible. Roger Federer numéro 1 mondial qui se déclare très serein, comme souvent, hein. Lui, il a plus de pression. D'ailleurs, en plus, on peut penser que c'est vrai. Depuis son doublé Roland Garros Wimbledon, il a plus rien à prouver. Bon, il a dit qu'il était très serein. Il attendait il attendait de pied ferme ses adversaires, mais je sais pas ce qu'il faut en penser de Roger Federer, parce que c'est toujours énigmatique avec lui, hein, parce que on sait jamais s'il est vraiment en méforme, comme en 2008 par exemple, et en 2008 on dit il est en méforme, il en touche pas une et finalement il gagne l'US Open. Et on sait jamais si le fait qu'il soit pas à 100% dans les petits tournois, c'est un signe alarmant, c'est un signe qu'il est pas bon, ou si c'est vraiment le je m'en foutisme à la Federer. Donc là, c'est encore l'énigme, et paradoxalement, le numéro 1 mondial, Roger Federer, mais même pas pour les bookmakers, même pas cité comme le favori. Mais bon, Roger Federer, je vais pas être original en disant que c'est Roger Federer, il peut battre tout le monde, il peut battre n'importe qui. Mais quelles sont ses chances selon vous pour qu'il gagne ces Masters? En plus, on sait que la saison passée, il avait été éliminé au stade des poules, notamment par Gilles Simon. C'était une fin de saison difficile pour lui. Donc, mathématiquement, il a rien à perdre par rapport à l'année passée, Roger Federer.
Bah, moi, je voulais dire, l'année dernière, il avait perdu face à Simon et face à Murray. Le seul match qu'il avait gagné en poule, c'était face à Stepanek. Stepanek qui avait remplacé Roddick, qui me semble, dans la poule. Et on avait dit qu'il était après son US Open, on avait dit qu'il était en confiance, qu'il allait remporter la Masters Cup pour la main. Il s'était fait balayer par Murray, par Simon. Donc là, on dit qu'il est en méforme. On se souvient qu'il y a 2 mois, il s'est fait taper par Del Potro à l'US Open. Peut-être que Del Potro n'est pas au top, mais il peut encore le battre. On sait que Murray, il a les capacités pour battre Federer sur dur. Donc franchement, Federer, c'est pas sûr qu'il se qualifie, il va pas, face à Federer, il y aura pas de souci, mais qu'il se qualifie pour une finale, pour moi, c'est loin d'être fait, un peu Federer.
Ouais, donc par rapport à Federer. Et alors, il y a 2 joueurs qui feront leur premier master, c'est Verdasco et Söderling. Quel est, selon vous, je vais pas être original, je me doute de la réponse, mais on ne sait jamais. Quel est, selon vous, le joueur qui a le plus de chances de briller dans ses masters pour ses 2 premières, Verdasco et Söderling? Roméo.
Qui a le plus chance de briller entre Verdasco ou Söderling?
Oui. C'est le premier master.
J'ai peut-être utilisé un petit cliché, mais étant donné la surface, je donnerais un léger avantage à Söderling qui est très à l'aise sur dur. C'est peut-être un petit avis personnel seulement, mais ouais. Moi je donnerais un avantage à Söderling.
Pas faux, mais Verdasco est quand même l'Espagnol qui, hormis Rafael Nadal, qui réussit le mieux, qui joue le mieux sur toutes les surfaces. Alors, bon, je pense qu'on a parlé des Masters de Londres. Si on a une évolution au niveau du score, etc. Justement,
Murray a breaké et mène 3-1, service à suivre. Donc, il confirme en quelque sorte sa supériorité sur Del Potro sur dur.
Ouais. Oui. Même si, bon, il y a un contexte...
Parce qu'on sait que Murray est invaincu dur contre Del Potro.
Oui. C'est vrai que son jeu peut vraiment emmerder Del Potro, carrément, hein, parce que Del Potro, c'est un... Bah, excuse-moi de dire ça, mais c'est un vrai bourrin. Et mais Murray, on sait que c'est un joueur... Qui utilise la puissance de ses coups sur la puissance des coups adverses. Donc là, c'est un joueur, un contreur, un pur contreur, Murray, même si de temps en temps, il attaque. Donc là, oui, mais il y a quand même des circonstances, parce que je pense que si Murray avait joué Del Potro à l'US Open, ça n'aurait peut-être pas été aussi facile que ça pour lui. Moi, je pense qu'on a dit un petit peu tout sur ces Masters. Donc dès que le vainqueur se fait connaître, je compte sur vous pour nous le signaler en direct.
T'inquiète pas.
On va parler un peu de la saison 2009 WTA, un tout petit peu, ça va être très bref, parce qu'elle a été un peu faible, il faut bien le dire. Il y a toujours les Williams qui sont les deux plus grandes, parmi les plus grandes, peut-être pas les plus grandes, mais parmi les plus grandes championnes de l'histoire du tennis. On aime ou on n'aime pas, moi je fais partie de la seconde catégorie, j'apprécie pas tellement. Il faut bien dire qu'elles sont sans concurrente. Il y a derrière des jeunes talents, il y a Wozniacki, Azarenka, mais elles sont très loin, ces jeunes pousses-là. On parle toujours d'elles, moi sur les forums de tennis, on me fait rire, on parle toujours d'elles, mais on attend une confirmation dans un grand tournoi. Parce que les Williams, c'est bien beau de les battre dans des petits tournois. On sait comment ils jouent dans les petits tournois. Hein. Enfin, les Williams dans les petits tournois, c'est ils jouent quasiment à une main, quoi. Derrière, il y a évidemment les éternels Dementieva, Kuznetsova. Bon, elles font des bons tournois, mais sur une saison, ça passe pas. Et le summum, le gâteau sur la cerise, comme dirait notre footballeur Wadou, Safina, numéro 1 mondial. Sans doute la plus mauvaise numéro 1 mondiale de l'histoire. En tout cas, celle qui a le bilan chiffré le plus affreux. Moi, j'ai envie de dire que la saison 2010 qui s'annonce, avec donc les sœurs Williams qui reviennent, Kim Clijsters qui a déjà botté les fesses de tout le monde à l'US Open, Maria Sharapova qui va peut-être revenir au top. Les fans de Sharapova tous les ans nous disent « Et si elle revenait au top ? Et si elle revenait au top ? Pourquoi pas en 2010 ?» Et surtout la patronne Justine Henin qui va revenir. J'ai l'impression que la saison 2010 quand même va s'annoncer un peu plus palpitante que la saison 2009. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Roméo ?
Je suis d'accord avec toi. En même temps, ça serait pas difficile de faire pire que cette année. Mais pour, on espère que cette vague de retour, comme tu l'as dit, Justine Henin, Kim Clijsters, qui est revenu cette année et qui bah c'est peut-être une année de transition, le retour d'Henin, va permettre de mettre un peu de d'homogénéité dans cette WTA qui en manque cruellement. Quand on voit que le cycle, enfin il y a un cycle continu pour les places d'honneur, j'ai envie de dire dans le top 10, on sait que bah il y a les sœurs Williams qui sont là, Kuznetsova, Dementieva, mais ça change souvent. Bah bon, cette année on a le droit à Wozniacki, Azarenka et surtout Wozniacki quatrième qui est la grosse surprise de l'année. Et j'espère que ce retour d'Henin, ce retour de Clijsters, ça va permettre d'instaurer un quatuor de joueuses régulières en WTA.
Oui. Je pense qu'on peut passer à la partie automobilisme.
Ah oui.
Et nous passons donc à la partie automobilisme avec notre ami Rakesh.
Bonsoir à tous, bonsoir les enfants.
Bonsoir, tu vas bien? Tu as l'air en forme.
Oui, ça va. Bah écoute, quand on fait une émission pour Génération Soccer, on est toujours en forme, n'est-ce pas les enfants?
Bien entendu. Et en forme, il faut l'être en cette fin de saison de NASCAR. Voilà, le générique, il est arrivé. Merci Dan que l'on salue amicalement, puisqu'il est comme toujours d'ailleurs dans les manettes et il gère cette émission de main de maître. Donc le NASCAR est un premier enseignement. C'est pas dans l'élite du NASCAR, mais c'est le titre de Kyle Busch dans l'antichambre de l'élite, la série Nationwide. C'est le 300 000. 9 victoires et 11 deuxième places durant la saison. On peut pas faire mieux, je crois. Il a écœuré ses rivaux et en particulier le premier d'entre eux, Edward. Qu'as-tu pensé de ce titre de Kyle Busch qui souffre pas beaucoup de contestations au niveau chiffré?
La chose, c'est que Kyle Busch est un pilote qui a beaucoup de talent et tout, mais qui n'a pas beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il s'énerve très très facilement. Et là, vous savez, c'est Kyle Busch, c'est un petit peu dans le football comme on peut comparer à Djibril Cissé à l'époque du Giroud. Vous voyez, c'est un gars qui a toujours quelqu'un, un maître qui est derrière lui. Et là, ce qui se passe en Nationwide, mais c'est pas le cas avec en Spring Cup, parce que justement, c'est lui qui prend le dessus, qui dit son patron, j'ai une voiture à deux balles. Et son patron il dit, ça va, ok, on fait le nécessaire et tout. Alors que là, en Nationwide, on était derrière lui, on l'a cadré. Quand il faut lui mettre des claques, on lui a mis des claques, pardonnez-moi, mais c'est vrai. Il a écœuré, oui, il a écœuré, mais c'est par son talent. En même temps, on l'a tiré par la main. Donc, bravo Kyle Busch. En attendant de faire mieux, c'est à la catégorie reine en Sprint Cup.
Est-ce que tu penses que cette saison, un de ses rivaux aurait pu remporter, aurait eu plus de légitimité que lui pour remporter le titre en Nationwide?
À part Edwards, non, pas du tout, non, pas du tout.
Donc justement, on a parlé un peu de la Nationwide, parlons de la catégorie reine, la Spring Cup, et l'actualité sportive, on va parler un peu après de l'actualité extra-sportive avec les rumeurs de transfert, mais l'actualité sportive était résumée à la question suivante, Jimmy Johnson allait-il faire la passe de 4 et gagner 4 titres d'affilée et rentrer au panthéon de la NASCAR, Rakesh?
Alors, la question est très très bonne, puisque je veux répondre... Elle est fortement très probable. Explication. L'histoire dit que son rival Mark Martin, qui va partir quatrième ce soir, a à 9 reprises déjà remis 108 points dans les yeux de Johnson. 108 points, c'est l'écart qu'il y a ce soir. Il a déjà fait à 9 reprises depuis 2002. Mais ça va être très très dur puisque notre cher ami Jim Johnson, devinez de quelle position il va partir. Il va partir en pole.
Ah oui.
Voilà.
Et c'est un énorme avantage NASCAR, hein, chez la NASCAR. C'est encore plus qu'un avantage en Formule 1, ça c'est clair.
Pas forcément, vous savez, en NASCAR, on peut être en pole position, on trace pas comme en Formule 1, au bout de 3 tours et on fait un écart. Vous savez, en NASCAR, il se passe beaucoup de choses. Et puis les qualifications en NASCAR, c'est pas comme en Formule 1. En Formule 1, on a une séance de, on a la Q3 qui dure 20 minutes, enfin la Q1 qui dure 20 minutes, la Q2 en 15 minutes, la Q3 en 10 minutes. En NASCAR, c'est, on a 2 tours pour faire le meilleur tour. On a 2 tours pour faire le meilleur chrono. Donc c'est vraiment un contre la montre en 2 tours. Et donc c'est vraiment des fois le poleman, c'est que le gars il a fait le tour de sa vie. Bon, je vais pas être méchant, mais des fois c'est ça. Donc c'est ça, très dur pour lui. Donc dernière épreuve ce soir à sur l'ovale de Miami Homestead. Départ ce soir à 21h30, prise d'antenne à 21h15.
Ouais, donc ça va être intéressant. Est-ce que les probabilités qu'il perde le sacre sont très infimes, si j'ai bien suivi ce que tu nous expliquais?
Plutôt, mais il peut le perdre, parce que comme j'ai dit, j'ai les statistiques devant moi, qu'à 9 reprises, Johnson s'est fait reprendre 108 points par Mark Martin, et en 2002 en Caroline du Nord, où il y a eu 128 points d'écart, en 2004 à Dover, où il y a eu 113 points, à Watkins Glen, où il y a eu 117, en 2004, toujours à Michigan, en 2004, il y a 132. Et en 2005, à ce fameux Miami Homestead, là, Mark Martin lui a mis 132 points. Mais bon, à cette époque-là, Johnson ne se battait pas pour le titre, puisque c'était Tony Stewart qui avait remporté le titre. En 2007, il a fait à 3 reprises à Daytona, il a mis 129, au Texas 116, à Pocono 114. Et cette année, il a fait encore une fois, au Texas, il lui a mis 111. Mais là, au Texas, donc là, je sais pas sur les 8 dernières que j'ai citées, qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais qu'au Texas, il a été crashé dans les 5 premiers tours et il avait fini, il est reparti à plus de 100 tours pour dépasser 5 pilotes.
Ça semble compliqué, ouais.
Voilà, ça semble très, très compliqué, mais vous savez, en NASCAR, tout est possible. L'inimaginable est possible. Donc, il y a du suspense, mais vous savez, bon, c'est pas été comme l'année dernière. L'année dernière, Johnson, il fallait que seulement finir au-delà de la 36e place plus et compter sur une victoire de Carl Edwards pour remporter. Vous imaginez, 36 sur 43, donc.
Ouais.
C'est-à-dire, si le gars, s'il finissait 35e, il était champion, donc voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est le scénario de l'année dernière. Là, cette année, c'est autre chose, c'est un peu plus intéressant.
Il y a plus de suspense, et ça doit être plus passionnant. Ça pose débat aux États-Unis, je suppose. Il y a certainement autre chose qui pose débat. S'il remporte ses 4 titres d'affilée, certains, je suppose, vont le considérer comme l'un des plus grands de l'histoire de la NASCAR, non?
Il est déjà.
Ah bah voilà.
Il est déjà.
Est-ce qu'il y a une unanimité par rapport à ça ou c'est difficile de comparer les époques, etc.
Ben il a le meilleur duo, la meilleure, il est dans la meilleure équipe avec le meilleur chef d'équipe, avec le meilleur pilote que vous demandez plus. Donc le meilleur plus meilleur plus meilleur. Bon, c'est sûr, c'est pas comme en Formule 1 où on avait à l'époque Jean Todt et Michael Schumacher où ils écrasaient tout le monde. Et qu'on s'ennuyait. Là c'est juste deux personnes, une personne qui est dans son stand, qui écrit, qui fait de la stratégie, et s'il gagne pas, qui est bien placé.
Je te trouve un peu sévère. Il y avait autre chose. Ouais. Il y avait de la stratégie, mais Schumacher avait un talent énorme et un coup de volant exceptionnel. Hein, ouais. Il y avait beaucoup de stratégie avec Jean-Todt, mais là je te trouve un peu sévère quand même. Il y avait quand même autre chose.
La stratégie, la meilleure voiture, et puis les pilotes, le plateau n'y était pas. Mais ça, c'est mon avis personnel à moi.
Non, mais bien sûr.
Par exemple, 2002.
Je suis d'accord. Je suis par moment très d'accord avec toi. Puis, ce qui était très impressionnant, mais on va parler de Formule 1 juste après. Mais ce qui était aussi très impressionnant avec Schumacher à l'époque, c'est que il avait tous les paramètres qui étaient justement, comme tu l'as dit, tous les paramètres qui étaient ouverts, ce qui donnait vraiment l'impression d'avoir un gouffre par rapport aux autres. Et moi, j'aimais bien Schumacher. J'aime bien Schumacher. J'aime bien Ferrari. C'est mon écurie préférée. Et ça.
Schumacher.
Mais ça on peut pas l'expliquer ça, parce que quand on est petit, on a toujours, tu sais, quand on est petit, on aime bien une équipe et après ça te suit toute la vie. Donc c'était pareil avec Ferrari quand j'étais petit. Et donc par rapport au pilote allemand, effectivement, c'était vraiment l'assemblage de tous ces éléments, donc la meilleure écurie, la stratégie très discutable par moment. Moi, je me souviens, on est beaucoup plus marqué par ce qui s'est passé en Autriche en 2002, je sais pas si tu te souviens, où Barrichello doit le laisser passer. Moi, je suis marqué par aussi un incident qui a marqué sans conteste involontairement la fin du Grand Prix des États-Unis. C'est quand Barrichello veut finir côte à côte avec Schumacher, et là le public américain n'y a rien compris. Déjà la Formule 1 n'était pas super appréciée à l'époque. Ça a vraiment, je sais pas si tu partages mon avis, ça a vraiment mis un coup d'arrêt à Indianapolis au circuit des États-Unis de Formule 1, cette histoire là de avec Barrichello et Schumacher. Mais on reste un peu dans la NASCAR maintenant, et bon, il y a eu en Europe une rumeur hein, qui devient de plus en plus persistante. On a eu du mal à la croire au début, on a cru que c'était trop léger. Donc c'était le fait que Yarno Trulli allait passer des tests en NASCAR. Ben, on sait qu'il y a déjà eu un précédent, même peut-être plusieurs. En tout cas, moi j'en ai un précédent en mémoire, c'est Juan Pablo Montoya, qui d'ailleurs serait très content d'accueillir dans sa catégorie le pilote italien. La question au début qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est vraiment sérieux? Il avait eu des contacts avec l'écurie Lotus. Est-ce qu'il va vraiment aller là-bas? Est-ce qu'il va s'y plaire? Au fil des semaines et au fil des jours, on commence à se poser de plus en plus la question, parce que les tests ont l'air de plus en plus, les tests qu'il va tenter de faire ou qu'il va faire ont l'air de plus en plus sérieux, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances crédibles qu'il y ait donc un pilote italien de Formule 1, Yarno Trulli, qui rejoigne la NASCAR pour la saison 2010? Que penses-tu des chances de Trulli d'accéder à la NASCAR?
Alors, l'équipe actuellement, c'est la Michael Waltrip Racing, dirigée par Michael Waltrip, propriétaire de voitures 00, 47 et 55, a effectivement invité Yarno Trulli à faire des essais en déclarant que Yarno voulait juste essayer. Donc, c'est Michael Waltrip qui a déclaré que Yarno voulait essayer. Malgré les essais, les ingénieurs et toutes les équipes seront impliqués sur ces tests, et qu'ils allaient se donner au maximum pour que le pilote apprécie ce test.
Oui.
Alors, la question qu'on se pose, que je vais te poser, Chris, c'est est-ce que après ces déclarations, il faut prendre ces tests au sérieux, après ce que je viens de te dire, Christophe?
Mais moi, j'avais cru aussi lire que le patron de l'écurie disait que les tests étaient le plus sérieux, et c'était le terme exact, le seriously, le plus sérieux du monde. Et donc, justement, est-ce que... Mais tu sais, les déclarations, c'est justement pour ça que je te pose la question, parce que les déclarations, c'est bien beau d'en faire, mais pourquoi faire des tests les plus sérieux du monde pour un pilote de Formule 1 qui a envie de s'amuser? Et en plus, on sait que Juan Pablo Montoya voudrait bien l'attirer en NASCAR. Donc...
Voilà, ben... Tu as tout à fait compris, donc tu sais très bien que tu as compris comme toi et moi que c'est du sérieux. Il ne faut pas oublier, alors un détail que je ne sais pas que si les auditeurs le savent ou que toi tu le sais, Michael Waltrip Racing, qu'est-ce que c'est? C'est motorisé par Toyota.
Ah voilà.
Ah voilà.
Et Toyota, a déserté.
Voilà. Et devinez où était Trulli en Formule 1.
Il n'était pas chez Toyota par ailleurs.
Mais tout à fait. Voilà. Mais il a déclaré aussi que la F1 restait tout de même sa priorité, et qu'il faut attendre ce week-end. Il y a un gala chez Toyota pour qu'il prenne une décision. Et c'est très très sérieux. Mais il faut voir aussi chez Lotus. Chez Lotus, où il y a Mike Gascoigne, qui est le chef le chef aérodynamicien de chez Lotus, qui est là normalement côtoyé quand il était chez Jordan et chez Toyota justement.
Voilà.
Donc, affaire à suivre.
Oui, et juste par conclusion par rapport à Yarno Trulli, on avait dit aussi il y a deux semaines que les tests le contrat chez Lotus était imminent. Mais comme quoi, deux semaines imminent, on n'a pas les mêmes notions de l'imminence, je pense, entre moi et Lotus. Je propose qu'on passe à la partie Formule 1.
Mais j'aurais bien aimé voir ta source par contre, parce que moi j'ai pas vu ça, j'ai pas vu que c'était émis pour le pilote. Enfin, ils avaient dit que ils avaient fait signer un pilote, mais c'est, ils avaient annoncé, mais c'est pas encore fait. On ne sait pas vraiment si c'est tout lui. On parle aussi de Kobayashi, mais on ne sait pas du tout.
Ouais, ouais. En tout cas, ça, on va en parler hein, tout à l'heure. Je suppose que tu as un peu un œil attentif sur les transferts de Formula. Avec, pose tout simplement sans transition qu'on parle de Formula. Avec l'actualité, je dirais, la plus chaude, c'est au niveau du Grand Prix de Grande-Bretagne avec Bernie Ecclestone. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Silverstone est dans l'impasse. Aucun contrat ne prévoit pour le moment de Grand Prix Outre-Manche en 2010. Mais Ecclestone se montre pour le moment coopératif et il dit que ça pourrait avoir lieu. Est-ce que toi tu penses qu'il y aura un Grand Prix de Grande-Bretagne en 2010 et s'il n'y en a pas, quand on sait en plus, bon, on va revenir un peu plus tard hein, sur la signature de Button chez McLaren, est-ce que tu penses vraiment que la Grande-Bretagne peut se passer d'avoir un Grand Prix de Formule 1 la saison prochaine? Rakesh.
La Grande-Bretagne ne peut pas se passer d'un Grand Prix de Formule 1. Maintenant, Bernie Ecclestone peut se passer d'un Grand Prix de Formule 1 en Grande-Bretagne. Malheureusement, tout le monde le sait que dans l'histoire, Ecclestone a déjà sucré le Grand Prix du Canada avant de le réintégrer, a déjà sucré le Grand Prix du Belgique avant de le réintégrer, c'est pareil, donc ça m'étonnerait pas que cette année Bernie Ecclestone sucre le Grand Prix de Grande-Bretagne. Explication. Le Grand Prix devrait se dérouler sur le circuit de Donington. Malheureusement, ceux qui devaient faire payer, donner le chèque à Bernie ne sont pas présentés, donc aujourd'hui on n'a toujours pas de nouvelles. Normalement, Sébastien devait reprendre le flambeau. Et sauf que Bernie Ecclestone demande un chèque énorme pour organiser le Grand Prix, mais ça va pas se faire. Alors moi, je voudrais passer un coup de gueule, un peu le genre de coup de gueule que t'as passé toi il y a deux semaines, parce que Monsieur Ecclestone demande de faire des gros chèques. Je veux bien, c'est pas un problème. Mais il faut pas oublier non plus le ferveur qui va remplir ces circuits. Parce que quand je tiens note, c'est ce qui s'est passé au Grand Prix de Turquie, où il y avait au moins une capacité de 5000 personnes, mais il faut pas oublier non plus qu'on se retrouvait avec 32 000 personnes seulement dans les tribunes. Pourquoi? Parce que les places étaient trop chères. Et que même pour que ça fasse pas mauvaise image, les équipes ont même proposé à Bernie Ecclestone que les places invendues soient portes ouvertes et que les spectateurs qui passaient à la région voyaient la course gratuitement. Évidemment, je laisse deviner la réponse de tout le monde de Bernie Ecclestone.
Évidemment que
je suis négative. Évidemment. Donc voilà. Donc organiser des grands prix à Tataouine, c'est bien. Mais il faut aussi trouver des personnes qui remplissent les tribunes, chose qui n'est pas le cas. Donc, alors que nous savons très bien que Silverstone est un circuit qui est super chaud, où les Britanniques ont une grande fièvre, surtout cette année que ça aurait fait un carton plein avec un duo britannique chez McLaren, je trouve ça scandaleux que cette année il n'y aurait pas du tout de Grand Prix en Grande-Bretagne. Voilà, c'était mon coup de gueule en étant tout calme, cool, relax.
Non mais tu as bien raison de dire ça, et je voulais faire une petite précision, le Grand Prix de Belgique, c'était une saga ici, le parti, en fait c'est très complexe, mais j'ai essayé de résumer ça très brièvement, le parti écolo qui était, je sais pas pourquoi je le cite, hein, je veux pas faire de politique, mais bon voilà, je le cite parce que c'était lui dans ce cas-ci, était dans la coalition, dans la majorité, et il y avait la pub sur le tabac dans le circuit. Et donc le parti écolo avait refusé de subsidier le circuit de Formule 1, ce qui avait précipité la perte, et ce qui avait d'ailleurs précipité, à ma plus grande joie, c'est une parenthèse, la défaite des écolos aux élections. Et donc c'était pas et donc à ce moment-là, mais il y avait toujours un pourparler continu entre les organisateurs, entre les hommes politiques et Bernie Ecclestone. Le contact n'était pas rompu, et simplement les gens disaient bon, on a un parti qui veut pas le signer, quoi. Ce qui était d'ailleurs un peu stupide quand on sait que par exemple, c'est une petite parenthèse aussi, c'est un petit coup de gueule quand on sait par exemple que la Ligue de football professionnelle belge est sponsorisée par une marque de bière. Donc voilà, ça c'est là les colons, on les entend pas à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était un petit coup de gueule aussi, puisqu'on y est, on peut se lâcher. Hein. Voilà. Oui, on est en famille. On est en famille, on est entre amis, on se lâche. Hein.
Chris, on était à Londres, et ben on reste à Londres avec le Masters de tennis et Andy Murray qui a gagné en breakant au dernier jeu d'Alcatraz, 6-3, 3-6, 6-2, première victoire pour Andy Murray qui, grâce à cette victoire, fait un bon petit pas vers la qualification.
Ah, très important, pas vers la qualification. Donc là, il faudra voir, Il pourrait même perdre en 3-7 contre Federer et être presque sûr d'être qualifié. Donc c'est une victoire très importante. On reste Pardon ?
C'est clair, je confirme.
Ah ben, merci de ta confirmation. Reste un peu dans la formula, mais merci de ta précision parce que nous sommes en direct et le direct prime, évidemment. Mais on va parler un peu des transferts possibles et bien entendu la saga Kimi Räikkönen, la saga finlandaise. Alors, bon, tous les jours, là, je suppose que tu vas être d'accord avec moi, Rakesh, il y a des avis divergents. Alors, il y a son porte-parole qui annonce quelque chose le lendemain, c'est pas vraiment ça. Il va partir. À un moment, on a annoncé il allait peut-être aller chez Mercedes, la nouvelle écurie Brown Grand Prix. Bon, ça, on pourra en parler un peu après aussi, parce que ça, il y a des choses à dire par rapport à ça. Mais donc finalement, Nico Rosberg sera probablement, et même je crois officiellement, le numéro 1 chez Mercedes en 2010. Et pour Kimi Räikkönen, ça semble la fin des haricots, puisque le fait que Brown GP soit devenu une écurie allemande, lui, il craint qu'il y aura un deuxième pilote allemand dans cette écurie-là. Donc concrètement, il n'est plus de baquet pour la saison prochaine. Kimi Räikkönen, adieu à la Formule 1 ou simple au revoir. Est-ce que toi, tu penses que un an sans compétition, ça va être très compliqué pour Kimi Räikkönen, ou est-ce que tu penses au contraire que, vu la multitude des écuries qui va naître en 2010 et pourquoi pas en 2011, il pourrait retrouver un baquet en 2011? Quelle est ton impression par rapport à l'énigmatisme qu'a Kimi Räikkönen?
Pour revenir au tennis, Murray qui a briqué en faisant un pas, il a fait un breakdance, je suppose, non?
Non. Non, ça c'est la spécialité de Gaël Monfils, mais bon. Voilà.
Oh oui, bon, je me suis mis tennis mat. Non, pour revenir sur le cas de Räikkönen, il a un petit peu cherché, le petit, hein, il a un peu cherché, hein. En demandant ses prétentions salariales, alors pour revenir à pourquoi, McLaren a choisi Jenson Button au lieu de Kimi Räikkönen, c'est simple, Jenson Button, lui, a demandé un salaire d'environ 7 millions d'euros par an, alors que Kimi Räikkönen lui demandait 25 millions de dollars annuels.
On va en parler un peu.
Je vous laisse. Bon.
On va parler aussi un peu de Button après, de son transfert et de savoir si c'est une bonne chose. Parce que quand on connaît le planning de Button, on a toujours eu l'impression qu'il faisait toujours les mauvais choix. Il changeait d'écurie quand ça commençait à aller et il n'a pas tari à cette réputation cette fois-ci en allant chez McLaren. Je me demande en plus quand on connaît sa probable rivalité avec Lewis Hamilton, et même si c'est un rêve de gosse d'aller chez McLaren, je suis pas persuadé que c'est vraiment une bonne idée qu'il ait eu là. Je suis vraiment pas sûr de ça. Il risque d'être de moins connaître sa voiture que Lewis Hamilton. Il risque à nouveau d'être dans l'ombre de Lewis Hamilton. Je suis vraiment pas sûr de ça. Et en plus, quand on sait que Brown GP était meilleur cette saison-ci que McLaren, il prend un énorme risque, hein, le champion du monde là. J'espère pour lui qu'il va pas faire une année 2010 cauchemardesque, mais je sais pas, je la sens pas très bonne pour lui. Enfin, j'espère me tromper pour lui.
C'est ce qu'on craint justement. Mais pourquoi Button est parti chez McLaren? Je vous donnais une bonne raison. Quand vous avez une équipe qui a accueilli Bruce McLaren, Emerson Fittipaldi, Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Mika Hakkinen, et bien sûr Lewis Hamilton, on a envie aussi de rajouter son nom à cette équipe. Non, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, c'est la solution, je dirais, la plus emblématique. Alors, il a un double discours parce qu'il dit qu'il ne cherche pas à être un des meilleurs pilotes de l'histoire. Lui, il dit que lui fait son job et il espère pas être un très grand pilote. Donc là, il y aurait un double discours. Moi, je pense qu'aussi, il y a un argument. Et là, moi, je comprends totalement cet argument-là, que c'est un rêve de gosse. Moi, je peux comprendre ça. Ça, c'est tout à fait légitime et logique. Maintenant, moi, je me pose la question qu'en tant que champion du monde, il a aussi une responsabilité sur ses épaules. Est-ce que il fait pas un peu n'importe quoi en signant dans des conditions si complexes chez McLaren? J'espère vraiment qu'il va me contredire pour lui, mais moi, j'ai l'impression qu'il fonce droit dans le mur, là. Moi, je suis vraiment pas. Et en plus, il a pas retenu la leçon du passé. À chaque fois qu'il était dans une écurie qui commençait à marcher, il était chez une écurie sur papier meilleure. Et on a bien vu ce que ça donnait, hein, les écuries sur papier meilleures. Je suis vraiment pas sûr de ça. Et en plus, la rivalité britannique, circonstance aggravante avec Lewis Hamilton, il va avoir un pilote qui était champion du monde en titre la saison dernière. Il va avoir comme coéquipier la saison prochaine. Pas sûr qu'il connaisse mieux la maison McLaren que lui. Pas sûr qu'il connaisse mieux les réglages de sa voiture que Hamilton. J'ai vraiment l'impression qu'il fonce droit dans le mur, moi. Je sais pas pourquoi je suis autant sceptique, mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que là il a fait un très mauvais choix. Après tu pourras me dire, et tu as certainement raison, il avait peut-être la possibilité, là c'était la seule fois dans sa vie où il aurait pu signer chez McLaren, ça je peux comprendre, mais sportivement c'est pas une bonne chose, je pense.
Contrairement à ce que tu penses, Chris, moi je suis très 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 très, très confiant. Explication. L'explication est simple, c'est tout simplement McLaren, étant donné va se débarrasser de Mercedes en tant que grand actionnaire.
Non mais le Mercedes sponsorisera toujours le moteur McLaren pendant.
En tant que moteur, c'est tout, mais il sera pas là en tant que décision d'équipe, puisque Mercedes avait 40% de McLaren et que McLaren s'est engagé à récupérer ses 40% d'ici 2011. Donc il n'aura plus de Mercedes. Et je pense que ça aussi, ça a un peu poussé, parce que je pense que par derrière, en McLaren en récupérant ses parts, je pense que ils ont des idées derrière la tête. Et je veux lancer une petite folie. Pourquoi pas faire revenir Ron Dennis chez McLaren? Pourquoi pas faire revenir Ron Dennis, sachant qu'en plus que ça...
Il a été évincé, on sait, sur les circonstances de tricherie, etc. avec Ferrari. Enfin, pas directement de ça, mais... la raison officielle, c'est pas ça, on est d'accord. Mais concrètement, c'est ça. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est quelques semaines après ça qu'il a été évincé.
Oui, c'est pas qu'il a été évincé, c'est qu'il pour faire plaisir, surtout à la FIA. Mais là, en plus que ça, avec le départ de comment ça s'appelle, Max Mosley à la tête de la présidence de la FIA, ça relance tout. Ça relance tout. Donc ça fait une bonne opportunité Jean-Claude, celui qui était chez McLaren, qui était parti à cause de la tricherie. Désolé, excusez-moi. Ron Dennis, voilà, merci. C'est une très bonne opportunité, sans compter qu'en plus que ça, Mercedes ne sera plus partie de l'effectif McLaren. Et en plus que ça, avec Jean-Claude à la présidence de la FIA, sera une très bonne idée d'un éventuel retour dans l'équipe. Sans compter en plus que ça, que lorsqu'il y a eu la rumeur comme quoi Mercedes allait avoir les Brown, Martin Whitmarsh, l'actuel homme numéro 1 de chez McLaren, aller perdre sa tête dans cette équipe. Donc là, ça a été le cas. Oui, Marc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais si c'est le cas, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je parle d'un éventuel retour de Ron Dennis.
Oui, mais il y a aussi quelque chose que tu as dit qui était très intéressant par rapport à Jean Todt, l'arrivée de Jean Todt. Il y a aussi, c'était pas prévu qu'on parle de ça, mais on en parle de plus en plus dans la presse belge de ça. Je fais une petite parenthèse. C'est l'idée d'avoir trois voitures, trois baquets en course, hein. Pas un baquet de secours comme les années précédentes. Tu te souviens, le baquet d'urgence qui remplaçait un des deux pilotes en cas de crash. Non, mais vraiment trois baquets en course, trois voitures en course par écurie. Donc l'idée, Ferrari pousse pour avoir cette possibilité-là, et d'où l'idée, par exemple, de revoir Michael Schumacher, en Formule 1, chez Ferrari, évidemment.
Bah, les baquets, c'est bien, 3, c'est pas mal, sachant que moi, je trouve ça impossible, parce que le vrai règlement historique de la Formule 1, c'est 26 voitures sur la grille de départ, donc il y en a actuellement, voire 13, donc 13 fois 2 égale 26, donc tout fait vite le calcul, sans compter que si on met rajoute une troisième place, troisième voiture, où va-t-on la mettre dans le garage? Alors à Monaco, j'imagine même pas où on va-t-on la mettre, peut-être sur le toit du garage, pourquoi pas. Mais là, il faudra construire une passerelle. Bon, j'ironise bien sûr, évidemment. Non, c'est une très très mauvaise idée. Surtout que c'est pourquoi c'est une idée de Ferrari, pour que dans quel but on retourne Schumacher. Non, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi.
Tu n'as pas envie de revoir Schumacher, toi.
Pourquoi pas? Lui qui rêve de donner des leçons, comme il dit à Hamilton et à Sébastien Vettel, pourquoi pas? Mais pourquoi pas?
Il a dit ça.
Il rêve justement de donner des leçons, justement pour montrer qu'il est meilleur par rapport à la nouvelle génération qui est présente actuellement.
il a pas besoin de le prouver de toute façon. Enfin, je pense qu'au niveau du au niveau du palmarès, au niveau de tout, au niveau de la domination qu'il a exercée, du talent, bon, il a pas besoin de le prouver. C'est pas à 40 ans à mon avis qu'il arrivera à démontrer ça. Ça, je pense que là, il se met le doigt dans l'œil s'il pense ça.
On a vu l'exemple dans les années 90 avec Nigel Mansell qui est revenu chez McLaren. Il a voulu faire de même avec la nouvelle génération. Et on a vu ce qui s'est passé, hein. De Grand Prix et on rentre à la maison, hein.
Mais oui, parce qu'il y a quand même besoin, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a quand même besoin d'une condition physique pour rouler en Formule 1 et voilà. Après Schumacher, la condition physique, il est capable de se la forger. Mais avec beaucoup plus de difficultés qu'avant aussi. Le talent, il l'a toujours. Les capacités de dépassement, il les a toujours. Les connaissances, il les a toujours. La fougue, il l'a probablement toujours aussi. Peut-être un peu moins qu'avant. Oh, quand même, il faut le souligner. Quoique, un nouveau challenge, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, il y a besoin aussi d'une condition physique. On l'a très bien vu avec Luca Badour, hein, quand il est revenu chez Ferrari. Il manque pas de talent, mais le problème, c'est qu'il était complètement à la rue, hein. Parce qu'il avait rien. Il a pas roulé pendant deux ans en Formule 1. Enfin, il était dans une écurie, il était pilote essayeur, mais bon, il roulait pas. Et on l'a bien vu, il était complètement à la ramasse. Il perdait 3 secondes par tour, quoi. Donc, c'était énorme, hein. Donc là, effectivement, il y a besoin d'une condition physique importante que n'ont pas les quarantenaires, ça c'est certain. Alors, que penses-tu, bon, on va parler de ça un peu aussi, le fait que Mercedes ait racheté Brand GP. Tu n'en as pas encore donné ton avis par rapport à ça. Je suis sûr que tu as un avis pertinent à nous donner. Est-ce que tu trouves pas, comme moi, que c'est quand même la solution de la facilité, la solution du business. On prend un truc qui marche. Et l'année passée, il y avait personne au portillon pour se bousculer pour acheter Honda. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Mercedes ne remonte pas dans mon estime quand ils font ce genre de choses. Qu'en penses-tu, toi?
Ben, Mercedes Grand Prix devait exister depuis fort longtemps sous l'emprise de McLaren, justement. Et en récupérant Brown, justement, ils ont récupéré 75,1%. C'est énorme. 75,1%, c'est énorme, sachant que, comme je l'ai dit précédemment, ils avaient seulement 40% de McLaren. Et en récupérant, en prenant une action majoritaire, ils voulaient absolument devenir cette équipe Mercedes Grand Prix. Et justement, s'ils ont fait ça avec Brown, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ça à McLaren, et c'était déjà prévu dans les mœurs passées. Un peu style BMW quand ils avaient collaboré avec Williams pour ravaler par la suite Sauber.
Ouais, petite réaction de Tom je vous invite d'ailleurs à laisser vos commentaires, hein, sur la playlist. Tous les commentaires pertinents et même tous vos avis seront les bienvenus. Je restais chez Brand GP, enfin Mercedes GP aurait été bien plus préjudiciable pour lui. Ils ont continué à développer la voiture de cette année pour emporter le titre et ont donc dû négliger le développement de la voiture de l'an prochain. Or McLaren comme d'autres, Ferrari notamment, eux ont pu développer la voiture pour l'an prochain tranquillement entre guillemets. Donc aller chez McLaren est bien plus intéressant sportivement, même en risquant d'être dans l'ombre de Hamilton, que de rester chez Mercedes GP. Ben voilà, un auditeur qui partage ton avis, qui ne partage pas le mien. Et je crois que c'est une très bonne idée, c'est un très bon développement aussi. Et d'ailleurs, je vous invite à laisser vos analyses et vos commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et petite parenthèse aussi, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas non plus à venir parler de sports qui vous intéressent et qui ne sont pas évoqués durant l'émission, de sports dont vous êtes passionné. C'est ce que Rakesh a fait la preuve aujourd'hui. Rakesh, on va recentrer le débat à ta demande sur Jenson Button, sur Raikkonen et sur Mercedes. Les perspectives pour la saison prochaine, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une révolution en Formule 1? Quelles sont tes perspectives pour la saison 2010? Je te laisse la parole.
Alors, saison 2010, les perspectives, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on sait que les pit stops seront, il y aura plus de ravitaillement en essence, donc on aura plus de Heikki Kovalainen qui va asperger d'essence de Kimi Raikkonen à la sortie des stands, puisqu'il y aura peut-être plus de Heikki Kovalainen, voire peut-être plus non plus de Kimi Raikkonen non plus, de petite parenthèse. Donc ça fait que quand on ira au stand, on changera que les pneus. Si pneus existera aussi encore en 2011, bien sûr, évidemment. Encore petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Donc les voitures seront super lourdes, mais tellement lourdes que le KERS sera supprimé, parce que ça prend du poids supplémentaire. Les baquets seront, au lieu d'être à 105 kg, passera à 120 kg pour mieux émerger le poids du carburant ainsi que celui du pilote. Donc ces trois changements, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ce sont les trois principaux changements à faire.
Parmi les nouvelles écuries, est-ce que tu penses qu'il y en a une qui va vraiment se distinguer, qui va sortir du lot par rapport aux autres?
Et surtout pour en parler, il faut attendre les premiers essais privés pour ça.
C'est plus.
C'est vrai que plusieurs équipes doutent des nouvelles équipes en l'occurrence de USF1 l'année prochaine, mais la FIA se montre très rassurante en déclarant qu'elle sera bien présente. Donc si la FIA a parlé, pourquoi pas. Surtout la nouvelle FIA, donc moi je leur fais confiance. Pour les autres équipes, c'est vrai qu'il s'agit d'un vrai mystère. L'équipe Manor, par exemple, elle développera sa voiture grâce aux simulations informatiques seulement, et non pas dans la soufflerie classique. Et il faut dire aussi que ces quatre équipes seront des quatre équipes classiques, c'est-à-dire SF1, Manor, l'Espagnol, Campos et Lotus. Utiliseront un moteur Cosworth et qui sont dans l'inconnu. On ne connaît pas encore pour le moment les performances de ce moteur, tout comme Williams aussi qui a fait le choix de revenir chez Cosworth. Donc il est pour le moment encore trop tôt pour faire des conclusions sur ces nouvelles équipes. Déjà, attendons qu'ils arrivent sur les essais privés, attendons qu'ils présentent aussi, qu'ils sortent qui font signer des pilotes. D'ailleurs, nouvelles équipes ont fait signer. USF1 en a fait signer un, Manor aussi en a fait signer un autre. Et Compos en a fait signer un, reste Lotus qui a fait signer son pilote et qui attend d'être officialisé. Donc apparemment, ces quatre équipes-là ont signé un pilote. Donc attendons tout ça. Donc déjà, s'ils ont fait signer un pilote, c'est déjà pas mal du tout pour la suite des événements.
Oui, peut-être dernier thème par rapport à la Formule 1, moi qui en ai encore d'autres à développer, concernant Mercedes, j'ai lu sur un forum que Mercedes s'intéresserait à Schumacher. Ça peut paraître un peu improbable, par contre la piste semble plus sérieuse concernant Nick Heidfeld. Qu'est-ce que tu penses de cette perspective du deuxième baquet de l'écurie allemande, la nouvelle écurie en quelque part?
C'est probable, c'est fort probable. Maintenant, Michael Schumacher, je n'y crois pas, sachant que Mercedes a toujours bavé sur Michael Schumacher, sachant qu'il a failli être pilote Mercedes avant de rejoindre Benetton avec notre ami Flavio Briatore. Mais moi, je pense plutôt que ça va être plutôt un Nick Heidfeld, sachant que c'est un enfant de Mercedes, il a grandi avec Mercedes, qui n'a jamais eu sa chance, sachant que un certain Kimi Räikkönen lui a pris sa place quand il fallait accéder à McLaren justement en 2002.
Ouais, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la Formula. Notre ami Jules n'est pas là, malheureusement, il devait participer à cette émission.
Et Christophe.
Oui,
les derniers transferts parce qu'on parlait des transferts des nouvelles équipes. Alors, Manor, justement, a fait signer Timo Glock, ex-Toyota, donc le premier pilote.
Excellent renfort,
mais je trouve curieux, très très curieux de la part de l'Allemand. Bon, c'est vrai que dans sa vie, il a fait des choix très très curieux. Mais ils sont très 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 payants, hein, il faut avouer. Donc en espérant que cette année, ça va être encore payant. Nelsinho Piquet a fait parler de lui en déclarant qu'il était en contact avancé avec Force India. Donc à voir par la suite. Et Force India, a déclaré que Neil Gianni, le pilote suisse, allait être à l'essai et qu'il l'orgnerait à refaire signer l'Allemand Adrian Sutil, mais que celui-ci aimerait changer d'air et est en train d'étudier des contrats d'autres équipes. Ça aussi, c'est à voir, c'est à surveiller de très très près. Et que USF1, justement, c'est la dernière minute, a signé un Argentin, il s'appelle José Maria López. Alors ça, c'est sous réserve, parce que tout simplement, il doit... Comment ?
Il doit aussi passer les tests médicaux.
Je ne sais pas cette information, mais sous réserve qu'il doit ramener une mallette de 8 millions de dollars aussi pour que ce soit vraiment officiel. donc José Maria Lopez chez USF1. Donc bizarre pour une équipe de F1 qui disait qu'ils étaient soit un Américain, soit un pilote d'expérimenté, de prendre un pilote argentin qui a fait le championnat de F3000 en 2004, ensuite GP2 en 2005 et en 2006, et qui a fait quelques podiums et qui était parti dans l'anomie faisant de la FIHT et le championnat de tourisme argentin, s'il vous plaît. Championnat de tourisme argentin.
Ça marque sur un CV, ça. Ça saute aux yeux, un truc comme ça. Ça fait peur, je dirais même.
Ah oui, non, mais. là, dans ce cas-là.
C'est du lourd.
Reprenez Sébastien Bourdet, là.
Oui, non. Mais effectivement. Comme ça. Bah, effectivement, tu touches un point sensible, là, c'est les pilotes qui doivent. Tu te ramènes avec 6 millions chez. C'est 6 millions ou 8 millions 6, que tu m'as dit.
8.
Bah, tu te ramènes avec 8 millions, t'as ton baquet. Donc voilà. Ça, on résume tout, hein, je pense.
C'est soit tu as la mallette, soit t'as un sponsor. Mais apparemment, c'est 6 millions de dollars, c'est parce qu'il n'a pas de sponsor.
Ah, mais lui, là, oui, mais non, tu m'étonnes qu'il n'a pas de sponsor, hein, vu son CV. Ah, oui. Non, mais c'est un illustre inconnu argentin. Moi, c'est la première fois que j'entends son nom, d'ailleurs, pour ne rien cacher.
Oui, moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il sort d'où? À moins qu'il a Maradona comme sponsor, mais lui-même doit de l'argent fisc italien. Mais voilà, donc, voilà.
Oui, donc, voilà, et tu parlais juste, conclusion par rapport à ça, tu parlais de Nelson Piquet Jr., qui pourrait signer chez Force India, ce serait un coup de pub énorme. Hein. Et en plus, il n'est pas illégitime totalement, parce que d'abord, il a un bon nom, c'est vrai, mais il commence à se faire un prénom dans les catégories, dans l'antichambre de la Formule 1. Il a fait de bons résultats, donc, enfin, bon, tout est relatif. Ce serait d'abord et avant tout un coup de pub, hein, quand même, pour Force India. Nelson Piquet, ça marque, hein, un nom comme ça dans une écurie. Surtout une très jeune écurie, n'est-ce pas, Rakesh?
Bah, il faut voir aussi, de toute façon, Nelson Piquet, malgré ce qui s'est passé, apparemment, il a de très 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 bonnes cartes en main. Soit, justement, il signe dans une nouvelle écurie, ou justement, chez Force India. Ou soit l'autre solution, c'est de se retrouver aux États-Unis en NASCAR, tiens, comme par hasard, parce qu'il a fait des tests avec la Red Horse Racing en series. Alors la truc series, c'est la troisième division. C'est la troisième division, parce que tout à l'heure on a parlé de la
Chevrolet. Juste en dessous de la division.
Voilà, tout à fait. Il a passé des tests très 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 concluants. Et donc pourquoi pas faire carrière en NASCAR pour ensuite réussir pour passer ensuite au National Red, puis aller grimper à l'échelon de la Sprint Cup. Donc ça, c'est aussi mais je peux vous dire que j'étais très très surpris et tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui qu'il ait de très très bonnes cartes en main pour Nelson Piquet dans sa carrière. En tout cas, moi je peux vous dire une seule chose qui est sûre, c'est que pour l'année prochaine, je m'inquiète plus pour Sébastien Bourdais que Nelson Piquet.
Ouais, mais ça, je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Voilà donc pour la partie automobilisme, je pense qu'on en a bien fait le tour aujourd'hui. On va parler un peu de rugby, malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude, notre ami Jules n'est pas là, il aurait tellement aimé réagir parce que l'actualité en rugby, elle est très très chaude, donc notamment hier, l'équipe de France. Une semaine après la victoire contre les Box, les Bleus ont écrasé les Samoas hier après-midi. Il faut dire qu'après 6 minutes, il n'y avait déjà plus de suspense, après le premier essai de Vincent Clerc qui portait déjà les chiffres à 13-0. Les Bleus ont tout simplement déroulé face à une formation sans âme, on était un peu surpris de la faiblesse des Samoas. Ils se sont même payé le luxe de faire tourner l'effectif dans une semaine, ils affrontent les All Blacks. Ils ont bien raison. L'équipe de France, les Bleus, qui confirment dans les tests match, ils confirment en effet, et c'est très rare parce que la semaine passée, c'était un petit événement. C'était la première défaite pour la première sortie en Europe pour les champions du monde sud-africains, défaits par les Bleus. Les Springboks ont subi la domination française en mêlée et dans les zones d'affrontement. Et ils se sont logiquement inclinés. Hein. La France a pris l'Afrique du Sud à son propre. L'unique essai tricolore de la rencontre a été concrétisé dans son stadium de Toulouse par l'ailier Vincent Clerc. Alors évidemment, hier il y a aussi eu la 13e journée de top du top 14. Il y a eu quelques surprises avec un résultat improbable pour Perpignan qui perd chez la Lanterne Rouge Albi. La faute à une première mi-temps catastrophique. Du coup, Castres en profite pour revenir sur les Perpignanais. Victoire sereine contre le Stade Toulousain, 30-10. Le Stade Toulousain qui était troisième avant cette rencontre. C'est une victoire très importante pour Castres, qui revient en plus sur le leader Perpignan. Ils ont le même nombre de points qu'eux. Clermont aurait pu profiter de cette défaite toulousaine pour se détacher à la troisième place, puisqu'ils étaient ex aequo avec les Toulousains. Mais les Auvergnats sont battus à domicile par Biarritz. Et bien voilà pour l'actualité du rugby. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, on peut passer maintenant un petit peu au jeu. Avant donc les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en février 2010, la saison de Coupe du Monde commence à reprendre dans toutes les épreuves. Aurélien, on parle de sport d'hiver. Tu as suivi les résultats, les premiers résultats de la saison avec attention, Aurélien.
Ouais, tout à fait. Bah, bonsoir tout le monde, parce que tout à l'heure ça bugait. Est-ce que là ça marche?
On t'entend très bien, Aurélien. Je t'entends très bien, Aurélien.
Super. Et ben avant de commencer à parler de sport, juste pour dire que en ce moment il y a Saint-Étienne-Lorient et Lorient mène 2-0. Voilà, c'est une petite parenthèse personnelle.
Alors moi aussi je voulais faire une petite parenthèse personnelle, étant donné qu'il y a mis le foot. Donc cette semaine, on sait très bien ce qui s'est passé et tout avec le scandale. Alors un petit jeu de mots pour détendre un petit peu, une petite blague. Voilà, juste pour vous dire que quand Raymond Domenech perd, il demande la main d'Estelle, et quand il veut gagner, il demande la main de Henri. Voilà.
Et voilà. Sans transition. Oui, ouais. Les auditeurs auront apprécié cela. Et donc,
nous ne sommes pas responsables de l'humour de Rakesh, hein, messieurs dames.
Je vais bientôt inventer un jingle ring pour moi, rassurez-vous les gars.
Tu peux te lancer dans ce genre d'humour, Roméo, hein, mais on parle d'abord de la préparation des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver de février 2010 avec Aurélien qui a suivi les premiers résultats, et il s'est passé beaucoup de choses, Aurélien, n'est-ce pas?
Oui, alors ça a repris à peu près dans toutes les compétitions, que ce soit en ski, en biathlon, en ski de fond, en soit ski ou en combiné, non pas en hockey sur glace ou en patinage artistique, mais je vais commencer par parler du ski de fond qui a repris ce matin avec le 15 km en Norvège, et puis avec une très bonne nouvelle, déjà un cocorico avec Vincent Vitos qui a fini deuxième sur le ski de fond, lui qui a été très décevant depuis quelques saisons et qui là semble revenir au bon niveau. Une très bonne nouvelle pour le ski français qui va devoir qui veut faire des médailles à Vancouver, et donc une forte chance de médaille. Il commence en tout cas très bien la saison en finissant en deuxième, et puis vraiment de rien du tout, puisqu'il finit seulement à 10 centimes du vainqueur, le Norvégien Ronny Alfas qui est à suivre, qui pour sa troisième course remporte pour sa troisième course en professionnel remporte déjà et a déjà deux victoires en trois courses, donc vraiment à surveiller ça. Donc vraiment le ski français qui se porte bien en ski de fond, en tout cas. En plus, à noter que Jean-Marc Gaillard, qui l'an dernier avait été le meilleur français lors de la saison, gagnant notamment une course, a été absent pour la grippe, donc vraiment on peut être confiant au niveau du ski de fond pour le ski français. Voilà, je voulais parler du ski de fond parce qu'on n'en parle pas assez souvent, je trouve, mais on va pouvoir parler maintenant de ce qui intéresse plus les gens, c'est-à-dire le ski alpin. Et puis la semaine dernière, on n'avait pas pu parler du slalom puisqu'on a repris avec le géant. Et le slalom, alors le géant avait été remporté par Didier Cuche. Et on avait noté pour les Bleus aussi un très bon début de saison avec Grange qui avait fait une très bonne septième place sur le géant. Donc très bon début de saison. Et il a confirmé, même si la victoire n'a pas été là, avec la semaine dernière le slalom, avec où il y a de fortes chances françaises, que ce soit avec pour les JO, que ce soit avec Jean-Baptiste Grange, Julien Lizroux ou Steve Missilier. Et donc les Français ont vraiment été très très bon, puisque même Jean-Baptiste Grange a fini troisième et Julien Lizroux a fini cinquième, donc c'est de bonnes perspectives pour les Jeux de Vancouver. Nos Français en tout cas sont plutôt bons, avec en plus Steve Missilier qui est aussi dans les points, qui finit onzième. Donc c'est un bon début de saison, même si ça va être très dur sur le slalom et gagner des médailles, puisque le niveau est vraiment très très relevé, encore plus cette année. Donc mais en tout cas pour l'instant les Français commencent très bien chez les hommes. Par contre c'est pas du tout le cas chez les femmes, où les filles ont été vraiment très décevantes, avec aucun point marqué quasiment. L'année dernière Sandrine Aubert nous avait vraiment surprise en descente ou en géant, en gagnant beaucoup de courses, et cette année c'est pas du tout le cas. Donc le début de saison est plutôt bon. Et puis aussi en patinage artistique, il y a deux semaines je vous parlais de Brian Joubert qui faisait sensation. Il va devoir se méfier parce que un de ses concurrents directs L'américain Rochette revient en très bonne forme également. Revient très bien en étant en tête pour l'instant du Skate Canada. Ça promet vraiment pour la saison de patinage artistique. Bon, rien n'est joué encore, mais Abbott sont tout prêts de gagner le Skate Canada et donc aller à la finale mondiale à Tokyo en décembre. Début janvier plutôt. Et à noter aussi sur cette compétition au Skate Canada qu'en danse classique, Nathalie Péchala et Fabien Bourza continuent leur lutte impossible à aller chercher la qualification pour les Jeux Olympiques. Il faut préciser qu'en danse, les champions olympiques sont les Français Olivier Delebel et Sarah Schulfender, et ils avaient décidé qu'ils mettaient un terme à leur carrière et finalement ils ont décidé de revenir, ce qui a déçu les deux Français prometteurs en danse derrière eux, Nathalie Péchala et Fabien Bourza, qui vont tout faire pour essayer d'aller chercher leur place pour les Jeux Olympiques, mais ça va être très difficile puisqu'on voit mal la Fédération Française ne pas inviter Olivier Delebel et ça va être très difficile, mais bon, pour l'instant ils font des bonnes performances, donc c'est jamais, vu que pour l'instant ils arrivent à rivaliser avec les meilleurs. Là ils sont deuxièmes au Skate Canada, donc on sait jamais, ils vont peut-être réussir à aller chercher leur place, mais bon, ça semble quand même assez compliqué. Alors voilà, donc la saison de ski qui a reprise, ça fait plaisir. Ce week-end il n'y avait pas de course puisqu'il y avait en tout cas pour le ski alpin il n'y avait pas de course en ski alpin car il y avait un meeting pour mettre en avant le sport le ski à Moscou sur une grande piste et tout. À noter que une performance de Steph Missilet français qui a fini deuxième alors que Lizrou et Grange ont été éliminés dans les premiers tours. Et voilà, donc la semaine prochaine, enfin le retour avec la descente, la première épreuve de descente de la saison avec à Lake Louise au Canada. Donc on va voir ce que vont faire nos Français sur descente avec très peu de chance néanmoins. Il va falloir attendre le Super G, je pense, dans le 29 pour voir une chance française avec là un Jean-Baptiste Grange qu'on va suivre de très près. Et puis voilà, la saison qui reprend, ça fait plaisir. Et puis on va suivre ça de tout près puisque cette année, je rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques en février 2010 à Vancouver et ça va vraiment être un grand événement sportif et donc on a tous hâte d'y être. Voilà Chris, j'ai fini.
Eh bien voilà, c'est intéressant, hein, mais il y a encore beaucoup d'événements qui auront lieu d'ici là et je suppose d'ailleurs qu'on va en parler dans les multisports respectifs. N'oubliez pas, c'est tous les dimanches à 17h, il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Ils seront évidemment tous lus à l'antenne. Alors on va parler un peu de multisport maintenant, des nouvelles qui font le sport. Avec, je vais commencer par une nouvelle qui n'est même pas tellement sportive, c'est l'affaire André Agassi. Je voudrais simplement vous placer en face d'une contradiction. André Agassi, effectivement, qui a avoué s'être dopé, il a surtout avoué s'être drogué durant sa carrière. On voit que certains tennismen et tenniswomen sont sanctionnés pour défaut administratif d'un an de suspension et on voit qu'André Agassi, on ne l'ennuie pas. Moi, j'ai aucun problème avec André Agassi, j'aime bien André Agassi. C'était un de mes joueurs préférés. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je trouve qu'en face de... il y a quelque chose qui m'échappe là. Ceux qui avouent... je vais dire que ceux qui avouent s'être dopés n'ont rien et ceux qui ne se sont pas dopés sont suspendus. Roméo, je ne sais pas ce que tu penses de cette nouvelle donc d'André Agassi qui n'est pas suspendu, mais moi, je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Bon, il faudra qu'on m'explique un petit peu les choses.
Ça dépend si tu considères que cette décision est pas bien prise par rapport à d'autres décisions qui ont été prises par rapport à d'autres actes de dopage, ou alors si tu prends cette décision comme un cas particulier. Si c'est comme ça, je vois pas l'intérêt de l'ATP de suspendre Agassi après coup, alors qu'ils ont fermé les yeux à l'époque.
Ben oui, non, c'est vrai. C'est d'un autre côté, mais avec la pression médiatique, peut-être qu'on aurait pu avoir un acte symbolique, même pas une suspension. Moi, je ne veux pas qu'on fasse du mal à Agassi. Je trouve que c'est courageux qu'est-ce qu'il a fait. Mais moi, je trouve ça, excuse-moi de dire ça, interloqué quand je vois que deux jeunes tennismen belges, pour ne pas les citer, je pense que tu avais compris ce que je voulais sous-entendre, sont suspendus an pour défaut administratif et que ceux qui se dopent n'ont pas de... Enfin, ceux qui avouent c'est avoir triché, même si, bon, moi je pense pas qu'il a voulu se doper pour dire de se doper, mais il a quand même triché, il avoue avoir triché, n'ont rien. Même pas de même pas d'avertissement, même pas de sanction orale, tu vois ce que je veux dire ? Rien.
Oui, un avertissement symbolique.
Oui, évidemment. Un avertissement symbolique ou un commentaire qui aurait été... Bon, voilà, excuse-toi. Ou... Mais quelque chose comme ça, il n'y a pas. Alors, il y a évidemment Aurélien voulu réagir, et après Rakesh aura quelque chose à dire par rapport à ça.
Des travaux d'intérêt général.
Ouais, moi, je voulais aller dans ton sens.
Par exemple, de la prévention avec les jeunes tennisman d'académie. Ça serait... Désolé de couper Aurélien, mais c'était pour proposer une autre solution.
Oui, bah, oui, moi je voulais rejoindre Chris par rapport à ce qu'il disait sur Gassi, parce que c'est anormal qu'il ait perçu la mauvaise chose, parce que par exemple, je vais élargir un peu ça, mais quand on voit par exemple qu'il y a des gens comme Rebellin ou même Marion Jones qui sont fait contrôler positif longtemps après et qui sont suspendus, et c'est pas le cas d'Agassi, je trouve ça assez surprenant. Je veux dire, j'ai pas d'exemple de sportifs qui ont été contrôlés après la fin de leur 10 ans ou 15 ans après la fin de leur carrière, mais pour moi, ce serait logique qu'ils reçoivent quelque chose ou je ne sais pas, ou qu'ils fassent, voilà. En tout cas, l'ATP aurait dû réagir et faire quelque chose, parce que sinon, ça va être des non-droits, et puis dans 20 ans, Federer ou Nadal vont annoncer on était dopé et ils vont rien prendre non plus. C'est pas non plus la chose à faire, quoi. Enfin, c'est mon avis.
Oui, Rakesh.
Oui, on parlait de trancher, de punir, de bannir, mais est-ce qu'il faut-il vraiment punir quelqu'un qui n'est plus sur le circuit, qui ne fait plus sa carrière ? Qu'est-ce qu'on peut amputer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, parce que c'est bien beau de faire tout ça, de faire tout un scandale et tout, mais le gars il est plus sur le circuit, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une amende ? C'est quoi le but ? J'arrive pas à comprendre. Donc voilà.
Mais moi, Rakesh, ce que je veux dire, c'est, par exemple, on parle beaucoup de la main de Thierry Henry, qui est pas un exemple pour les jeunes, etc. Mais je veux dire, Agassi, là, en se dopant, il est plus un exemple pour les jeunes. Je veux dire, moi, ça a été, voilà. J'ai jamais fait de tennis, mais ça a été un exemple pour moi. Ça a été le joueur que j'ai suivi en tennis avec Sampras. Et aujourd'hui, je veux dire, c'était quand j'ai appris ça, ça a été un monde qui s'est écroulé pour moi. Je veux dire, j'ai marché en citant, j'ai parlé de tennis chaque fois en citant Agassi, en le montrant comme un exemple pour la jeunesse et tout. Et là, ça s'écroule et on fait rien. On laisse marcher. On dit aux jeunes, le message qu'on fait passer aux jeunes qui vont commencer le tennis, c'est un champion comme Agassi avait le droit de se doper. De se doper, c'est pas grave, il ne prend rien. Enfin, moi, je trouve ça lamentable. Au moins, l'ATP devrait réagir.
Ouais, non, mais ça, bon, mais c'est intéressant de dire ça. Je pense que peut-être que Rakesh a encore quelque chose à dire. C'est le cas, il me contredira. Mais bon, ben, ce qui est bien, c'est que chacun donne un peu son avis par rapport à ça. Justement, on parle de dopage dans le tennis. On y reste un peu puisque, bon, quelques nouvelles, entre autres, les deux joueurs belges ont confirmé le rappel devant le tribunal arbitral du sport. Donc, Yanina Wittmeyer et Xavier Malisse contestent leur suspension d'un an, qu'ils jugent, je pense, à juste titre, moi aussi, très sévère, alors qu'ils ont été contrôlés. Ils ont été sanctionnés pour des défauts administratifs. Je pense qu'on ne donne pas spécialement le bon exemple. Il y a encore une autre nouvelle en tennis, un peu plus anecdotique celle-là. Juan Carlos Ferrero, qui avait annoncé à son entraîneur qu'il mettait un terme à sa saison, a quand même été rappelé en Coupe Davis en réserve pour le match qui opposera à la République tchèque dans quelques jours. Donc voilà, Juan Carlos Ferrero contraint aux travaux forcés. Donc voilà. En athlétisme, il y a eu aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant cette semaine, une nouvelle qui a un petit peu ébranlé aussi, qui a en tout cas fait polémique. C'est la championne du monde du 800 mètres en août dernier, Karsten Semenya. Elle a fait beaucoup parler d'elle, bien malgré elle malheureusement, les instances de l'IAAF se sont réunies et ont décidé donc de ne pas sanctionner la joueuse. Donc elle n'est pas sanctionnée, elle pourra donc conserver son titre, elle pourra continuer à disputer des courses chez les femmes. Et par contre, elles ont décidé dans le même moment de ne pas annoncer le résultat du contrôle. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire moi, mais là encore, j'ai encore quelque chose que je ne comprends pas. On blanchit cette athlète là. On dit elle peut continuer à courir chez les femmes, mais dans le même moment, on ne dit pas le résultat de son test de féminité. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il y a une énorme contrariété. Et là, je sais pas, mais pour les adversaires, pendant de nombreuses années, en disant on ne publie pas le résultat de ces tests de féminité, ça sous-entend qu'elle n'est pas, qu'elle serait hermaphrodite. Et moi je dis, pour les prochaines années, ça va créer un climat de tension vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ses adversaires qui n'est pas serein, et je suis pas encore persuadé que là on fait une bonne solution en disant on la blanchit, elle continue, mais on ne dit pas si elle est une femme ou un homme. Donc là je sais pas ce qu'ils veulent dire, Roméo. Peut-être par rapport à ça, tu as quelque chose à réagir. Mais là, je pense que ce genre de communiqué est désastreux, moi, je pense. Ça va pas améliorer les choses. Que du contraire.
On ne fait que reporter le problème. C'est ça le truc, parce que il se reposera dans les années à venir quand on la verra aux prochains Jeux Olympiques, aux prochains championnats du monde écraser la discipline. On va encore se dire, ouais, mais les résultats, on les a pas eus. Et donc c'est, bah, comme tu l'as dit, c'est assez incompréhensible.
Oui, moi je voulais aussi rajouter un petit truc en athlétisme par rapport au fait que la suspension de enfin sur le 1500 mètres des Jeux Olympiques, le vainqueur, je ne me souviens plus de son nom, je vais le retrouver, ça a été c'était confirmé
sur combien tu
1500
dis
1500 mètres 1500 mètres en athlétisme. Voilà, enfin bref, il a été confirmé qu'il était bien dopé, donc il a été bien suspendu. Ce qui fait que je voulais noter que du coup, Mehdi Bala, notre Français qui avait fini quatrième aux Jeux Olympiques, gagne donc la médaille de bronze logiquement. Et Rachid, donc ça rajoute...
Rachid Ramzi. Oui,
voilà, Rachid Ramzi, je pense. Voilà, merci beaucoup. Et donc ça fait... donc la France améliore encore son record de médailles lors d'une Olympiade, puisque le record avant... Avant cette dernière Olympiade de Pékin, était de 39. On l'a battu à Pékin avec 40, et grâce à la nouvelle médaille de Mehdi Bala, on a 41 médailles.
C'est une bonne chose, hein. Peut-être une réaction par rapport à ça. Non, parce que j'avais cru comprendre qu'on m'interrompait. Donc, en parlant d'athlétisme, encore deux brèves. Christophe Lemaître a été élu révélation de l'année par la Fédération européenne d'athlétisme. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne reconnaissance. C'est un garçon qui a beaucoup de talent en plus dans le sprint, et en plus c'est un des garçons qu'on soupçonne le plus propre dans l'athlétisme. C'est pas plus mal finalement. Et j'avais encore quelque chose à dire peut-être par rapport à l'athlétisme. Usain Bolt, c'est une déclaration. Usain Bolt a confirmé que ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'il ferait beaucoup plus attention, il mettrait beaucoup plus facilement sa santé en avant, et donc il courrait beaucoup moins d'épreuves en 2010. On parle un petit peu de cyclisme maintenant. Voilà, avec la nouvelle de la semaine, évidemment, Aurélien, la confirmation, Contador reste chez Astana. C'est une petite surprise quand même, ça. Aurélien, non?
Oui, c'est une grosse surprise, et puis moi, c'est surtout une grosse incompréhension. Je ne vois pas pourquoi il reste chez Astana. Je suis assez surpris par cette décision. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'entendre, lui et Vinokourov, même s'ils vont pas avoir les mêmes courses. Vinokourov, je pense, aura la Vuelta et le Giro en objectif, et Contador le Tour de France, voire le Giro. Mais pour avoir regardé tout à l'heure, en préparant l'émission, l'équipe Astana, actuelle, je ne sais pas s'ils vont recruter, et ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment, mais je ne vois pas quel intérêt Contador à rester chez Astana pour le moment. Quand on voit l'équipe Astana et les coureurs qui la composent, il y a Kashishkin qui revient de dopage, c'est vraiment pas une belle équipe pour gagner un tour par rapport à l'an dernier. Je veux dire, Armstrong a pillé Astana, il faut le dire, et du coup Contador n'a pas l'air d'avoir une équipe en mesure de l'emmener gagner un Tour de France. Après, il peut gagner le Tour de France lui tout même, et ça nous revient à notre débat il y a deux semaines qui avait été très intéressant. Je veux dire, comment l'équipe Astana, maintenant on va peut-être avoir, Astana a peut-être recruté, mais ça va être intéressant de voir si Astana recrute pas, est-ce que Contador peut gagner face à la super équipe d'Armstrong. Moi je pense que ça va pas être le cas, je suis vraiment surpris, surtout qu'on voit que par exemple un Wiggins par exemple va aller chez Sky, c'est aussi l'information de la semaine, donc il va avoir aussi une bonne équipe à son service, etc. Même si peu de monde voit Wiggins gagner le Tour de France, mais on sait jamais. Mais voilà, c'est vraiment surprenant. Enfin, moi je ne comprends pas vraiment la stratégie de Contador. J'espère en tout cas qu'il va toucher un gros contrat et qu'il va réussir à gagner le Tour de France de lui-même, mais bon, j'en doute.
Oui, tu parlais de Sky. Il y a deux Italiens qui ont rejoint aussi Sky cette semaine. C'est Dario Scioni, qu'on connaît bien, et Davide Vigano, qu'on connaît un peu moins bien quand même, mais qu'on connaît aussi quand même. Et il y a aussi une autre équipe cycliste qui recrute pas mal en ce moment. C'est l'équipe Fuji Cerveto. Elle a annoncé le recrutement de trois éléments pour la saison prochaine. Les Espagnols Celis et Iban Maioz Exterbaria et le Portugais Manuel Cardoso. Eh bien, je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Avant cela, évidemment, Aurélien a quelque chose à ajouter par rapport à ces transferts de cyclisme. Aurélien.
Oui, bah, je voulais rajouter que chez Sky, on parle de Nicolas Portal qui avait eu un problème cardiaque en cette saison et qui, heureusement, apparemment, s'est guéri. C'est une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il était, c'était un très bon rouleur français qui roulait à la caisse d'épargne auparavant. Donc, c'est super qu'il puisse retrouver une équipe, surtout signée chez Sky. Et puis aussi, Sylvain Calzati qui n'avait plus de contrat après la fin de l'équipe Agri-Tubel qui signe aussi chez Sky. Et puis aussi à noter le champion de France du contre-la-montre et le vice-champion olympique de cyclo-cross Perrault qui signe à l'auto et qui va, on va voir ce que ça donne. Je suis très impatient de voir ce qu'il va donner sur route, surtout quand on sait que le nombre de coureurs venant du cyclo-cross qui ont ensuite réussi en vélo, je pense notamment en cycliste sur route, je pense notamment à Cadel Evans. Donc j'ai vraiment hâte de voir Perrault et de voir si ce que je pense, parce que moi je pense que si Absalon venait sur cycliste sur route, il pourrait faire très très mal. Donc j'espère que Perrault qui est le vice-champion olympique d'Absalon va pouvoir montrer à Absalon qu'il faut qu'il tente sa chance en cycliste sur route, même si Absalon préfère pour l'instant le cyclo-cross. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Eh bien, je pense que on va résumer vraiment cela à la très bonne nouvelle par rapport à la santé Nicolas Portal, qui était un très bon coureur, hein, qui aimait bien les échappées, qui prenait beaucoup de risques dans les descentes, j'aimais bien ça chez lui. Et donc voilà, bonne nouvelle pour lui. Je peux juste parler de cyclo-cross et saluer la défaite de Nils Albert. Aurélien, je pense que tu as suivi ça. Il a été, il a perdu chez lui beaucoup de choses. Hein. Il y a trois semaines, il a perdu son honneur, il a été sifflé par le public. On lui a soupçonné d'avoir bousculé Sven Nys. Je ne sais pas si tu as vu la course. En tout cas, voilà, il était battu la semaine dernière par Sven Nys. Donc Nils Albert n'est plus aussi intouchable que cela. Sven Nys, en tout cas, prouve qu'il a encore de jolis restes.
Ouais, mais c'est bien que le mythe Nils Albert s'effondre. De toute façon, on savait qu'il allait perdre un moment ou un autre. Après, je pense que ça va être anecdotique sur l'ensemble de la saison,
ah, oui.
À mon avis.
Oh oui, parce que c'est quand même, c'est pas loin d'être un cannibale quand même. Il gagne pas mal de choses. Un voilà. Petit score sur Saint-Étienne-Lorient, si tu veux, Aurélien, tu peux nous faire ça.
Oui, on est à la 75e minute et non, pas de but. Donc Lorient met toujours 2-0. Oui, 75e, excusez-moi. Donc Lorient mène toujours 2-0 face à Saint-Étienne, un magnifique but de Vaiura sur coup franc et un but de Sosa, notre Argentin arrière droit sur corner qui a devancé Varro de la tête. Et puis là, on a failli ouvrir le score pour la troisième fois et attendez est-ce qu'il y aura but? Non, il y aura pas but. Voilà. Voilà, c'était tout. Sur Saint-Étienne-Lorient, il reste 15 minutes de temps réglementaire.
Et on peut aussi dire que oui. Nice mène 1-0 face à Toulouse. Tiens, puisque on peut être
à domicile.
Précis.
Oui, remis sur penalty. Remis sur penalty.
Oui, mais je pense que ça mérite d'être dit. Bah, si vous êtes amoureux du football,
ah, oui.
Je n'ai qu'une chose à vous dire. Le débatteur sur Génération Soccer. Mais tout d'abord, je vais saluer les animateurs qui ont participé avec moi. Roméo, Aurélien, Adrien, Akesh. Merci d'avoir...
Merci à toi, Chris.
À ce Sport. Merci, bien entendu, à Dan, qui a très bien, comme toujours, maîtrisé son sujet pour vous proposer le meilleur service possible. Bah, le prochain multisport, je vais pas être original, c'est dimanche prochain à 17h. Bah, on espère que vous serez un petit peu nombreux. Il faisait froid aujourd'hui. Je pense que vous aviez peut-être autre chose à faire, mais... n'hésitez pas durant la semaine à vous proposer des sujets de sport que vous voulez aborder. Tout le monde est le bienvenu et n'oubliez pas, tous vos commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite de passer un très bon début de soirée à toutes et à tous. Une délicieuse fin de soirée si vous allez dormir, mais ça m'étonnerait parce que ce soir il y a le débafteur Ligue 1 et on parlera aussi un peu des championnats étrangers. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. À bientôt. Au revoir.